Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
Eh bien voilà, le pèlerinage diocésain est passé. Nous avons vécu 4 jours, 5 en comptant la journée des écoles, intensif avec beaucoup de pèlerins des Hautes-Pyrénées, des catholiques des Hautes-Pyrénées qui sont venus au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Vous les avez rencontrés, vous avez probablement vécu des temps forts avec eux. Comment vous, notre pasteur, vous avez vécu ce pèlerinage de l'intérieur ?
Eh bien, comme je dirais chaque année, mais chaque fois avec une couleur un peu différente. Une fois de plus, j'ai identifié à quel point notre pèlerinage diocésain est un pèlerinage un peu particulier, puisque les gens habitant quasiment sur place vont, viennent, choisissent dans le programme ce qui les intéresse, reviennent, repartent, enfin, etc. Et puis, bien sûr, il y a la grande journée diocésaine du dimanche. Je l'ai vécu avec beaucoup de joie, de revoir, voilà, pratiquement tous les visages me sont devenus progressivement familiers, et c'est toujours une grande joie pour le père de famille de réunir sa famille, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, morceau par morceau, j'ai passé du temps avec les uns, avec les autres, avec les collégiens, avec ce qu'on appelle les JHO, les jeunes hospitaliers, les grands lycéens, avec un beau renfort d'une quarantaine de jeunes du diocèse voisin, puisque la proposition de venir aider comme hospitalier pendant notre pèlerinage diocésain de Tarbes et Lourdes est faite dans les écoles catholiques du Béarn. Et donc, il y avait une quarantaine de jeunes qui étaient là avec leurs accompagnateurs. Bien sûr, les malades avec l'hospitalité, etc., etc. Voilà, divers groupes du diocèse. Et puis, dimanche, la grande journée diocésaine avec un beau programme. Il a fait un temps superbe, de belles célébrations profondes, où on sentait les gens heureux d'être là, et heureux d'être là en cette année jubilaire. Surtout ceux qui ont vécu les autres pèlerinages, les autres rendez-vous diocésains, les sanctuaires Mario du diocèse. On sentait que pour eux, ça faisait un tout. Voilà. Habituellement, le pèlerinage diocésain, c'est à Lourdes, point barre. Cette année, c'était vraiment le cinquième de nos rendez-vous diocésains dans les différents sanctuaires du diocèse. Et c'était bien vécu comme ça. Moi, je l'ai vécu comme ça aussi, de manière très, très profonde et voilà, très, très agréable, je trouve. Voilà, un bon moment. Et encore une fois, le fait de retrouver des gens que je connais de mieux en mieux... Tisse un lien profond et qui est très beau, où ensemble on se retrouve à la grotte, on prie Marie, on est dans des processions, une belle, belle procession eucharistique, vraiment, la procession mariale du soir, enfin, de belles rencontres et la journée de dimanche, vraiment, une belle messe diocésaine avec les intervenants divers, le chœur diocésain et puis des tas de gens, quoi, voilà, qui étaient heureux d'être là.
Alors depuis quelques semaines, vous parcourez un petit peu le diocèse. Alors ce ne sont pas des visites pastorales, mais vous allez quand même à la rencontre des paroisses nouvellement organisées pour répondre un peu aux questions justement sur cette réorganisation. Mais vous n'avez pas encore vu tout le monde. Est-ce que dimanche, alors que justement vous preniez la parole pour présenter un petit peu votre vision pastorale pour les années à venir dans notre diocèse de Tarbes et Lourdes, est-ce que vous avez pu sentir un peu les réactions, la manière dont le cœur du diocèse vit tout cela?
En effet, donc le diocèse est en réforme profonde depuis, selon un processus commencé au mois de mai 2023, et les premiers éléments de cette réforme se sont mis en place le 1er septembre dernier, et donc j'ai repris mon bâton de pèlerin, non pas pour des, comme vous l'avez dit, des visites pastorales au sens plus juridique ou plus, je sais pas quoi, technique du terme, mais j'ai repris mon bâton de pèlerin pour repartir dans les paroisses, non pas à la rencontre des diverses réalités, tout ça comme je l'ai fait pendant les visites pastorales, mais vraiment à la rencontre des acteurs de la communauté chrétienne, prêtres, diacres, laïcs engagés auprès du curé, dans les EAP, et puis les conseils économiques, pour répondre à leurs questions et puis développer un petit peu plus dans le détail l'organisation. Mon propos au diocèse dimanche dernier, le pèlerinage diocésain, n'était pas tant d'entrer dans une réexplication encore de l'organisation à proprement parler, mais de ce qu'il y a dessous, c'est-à-dire des fondements à la fois spirituels et théologiques, de ce qui conduit à cette organisation, à cette adaptation, mais surtout des raisons pour lesquelles on le fait et sur quoi on s'appuie pour faire tel choix plutôt que tel autre. Voilà. Donc les raisons profondes profondément, j'ai envie de dire, ecclésiologique, spirituel, de ce qui conduit à la réforme, et puis ensuite, voilà, répondre aux questions éventuellement pour expliquer pourquoi tel choix plutôt que tel autre, en sachant que tout cela est assez est très important pour unifier le diocèse dans une vision commune, mais relatif aussi, parce que c'est moins important que la vision plus théologique et spirituelle qui motive tout cela.
Voilà. Le Christ, toujours repartir du Christ. Hein, vous avez vraiment insisté là-dessus.
J'ai beaucoup insisté là-dessus, parce que si on ne fait pas ça, bien on est une association, une organisation humaine où les tempéraments des uns des autres s'imposent, se disputent, etc. etc. et on n'en sort pas, malheureusement, bien souvent. Nos façons de fonctionner en Église sont bloquées parce que les vraies raisons des blocages sont des raisons strictement humaines. Et donc, il faut toujours repartir du Christ et de ce qu'il a confié à l'Église en l'instituant, en la confiant aux apôtres et aux premières communautés chrétiennes. Et nous sommes là, voilà, investis de la même confiance de la part de Dieu et de la même mission. Et c'est là notre devoir que de nous y adapter.
Voilà, alors tout ce que vous nous avez dit dimanche matin, on pourra le lire, le redécouvrir avec la publication de cette lettre pastorale qui sera diffusée très bientôt dans le diocèse, dans quelques jours ou dans quelques semaines. Alors ce week-end, puisque nous étions au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, ça n'a pas échappé aux pèlerins, voilà, les différents affichages à l'entrée du sanctuaire et notamment un panneau qui n'a pas laissé indifférent. J'ai pu entendre pas mal de réactions face à ce panneau d'affichage sur lequel était écrit « Sous le regard de Marie, chrétiens et musulmans prient ensemble ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y avait un rassemblement de particulier ce week-end à Lourdes, Monseigneur ?
Depuis le Concile et la déclaration Nostra Aetate, il y a exactement 60 ans cette année, c'est un texte du Concile Vatican II qui expose la vision catholique des relations avec les juifs, avec les musulmans, avec le bouddhisme, avec les autres formes de spiritualité ou de sagesse qui ne manquent pas dans l'humanité, et de quelle manière l'Église catholique regarde toutes ces personnes croyant d'autres religions, monothéistes, puis de cercles de plus en plus larges. Mmh. Dans chaque diocèse, depuis le Concile Vatican II, ou dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de diocèses, il y a un service du diocèse qui s'appelle Relations interreligieuses, service des relations interreligieuses. Et notamment, il y a le service diocésain de l'écuménisme pour nos relations avec les juifs et les autres églises chrétiennes, les protestants, les anglicans quand il y en a, les orthodoxes, et puis les relations avec les musulmans quand il y en a aussi, et c'est le cas dans notre diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Et donc, au niveau national, il y a beaucoup de groupes islamo-chrétiens qui se retrouvent très très régulièrement à l'initiative des diocèses, donc d'une nomination faite par l'évêque, d'un prêtre ou d'une équipe diocésaine qui porte cette mission d'établir des liens, des relations fraternelles avec ces croyants particuliers que sont les croyants de l'islam. Et pour la première fois, ces groupes islamo-chrétiens des diocèses de France ont organisé un pèlerinage national invitant les participants, leurs publics habituels, on va dire, sous la responsabilité du prêtre qui, au niveau de la conférence des évêques de France, est chargé d'accompagner cette dynamique des rencontres islamo-chrétiennes. Et donc, c'était le premier pèlerinage islamo-chrétien organisé au sanctuaire de Lourdes et qui rendait visible une réalité qui l'est beaucoup moins, mais qui est réalité quand même, c'est-à-dire le fait que des musulmans viennent régulièrement prier la Vierge Marie à Lourdes, puisque la Vierge Marie fait partie du Coran. C'est Mariam, la mère du prophète Jésus. Et donc, des personnes musulmanes d'islam viennent régulièrement à Lourdes, discrètement, mais réellement. Et là, pour la première fois, leur pèlerinage était rendu visible par cet événement des 60 ans du décret Nostra Aetate.
Et alors, quelle prière commune on peut faire, chrétiens et musulmans, si on se rassemble, c'est qu'on essaie d'avoir un même élan, une même prière, ça peut quand même paraître assez compliqué quand même.
Oui, alors, pour ma part, je n'ai pas participé lors de ce pèlerinage, puisque j'étais occupé, si j'ose dire, avec le diocèse, à un temps de prière commune Donc j'aurai un peu de mal à vous répondre, mais en tout cas pour avoir plusieurs fois visité à la mosquée, une des deux mosquées de Tarbes, le groupe islamo-chrétien qui s'y réunissait, qui se réunit d'habitude dans une salle d'une paroisse catholique de Tarbes, mais qui, parce que je souhaitais rencontrer la communauté musulmane, s'était réuni à la mosquée. La rencontre est une rencontre fraternelle, d'échange, d'apprivoisement, de se reconnaître comme des gens qui sont sensibles à la dimension spirituelle de la vie et partageant dans leur foi le fait de croire en un seul Dieu, le monothéisme, ce qui est déjà une grande affaire. Et en fait, ça m'a permis pour ma part d'identifier que ce que les musulmans parfois reprochent aux non-musulmans, c'est pas d'être chrétien ou d'être juif, mais d'être mécréant, c'est-à-dire de ne croire en rien. C'est cela le péché le plus grave. Entre croyants différents, même d'autres religions, en tout cas pour ceux qui participent à ces rencontres islamo-chrétiennes, on se comprend et il y a une amitié partagée et une sensibilité commune à la dimension spirituelle de la vie humaine et de l'histoire du monde. Et ces rencontres et la rencontre, ce pèlerinage, s'inscrivent dans l'initiative que Saint Jean-Paul II a eue de réunir les grands responsables de toutes les religions du monde pour une première fois à Assise et qui continue depuis lors, où ensemble nous tournons vers Dieu, alors Dieu, vers la divinité, vers l'au-delà, vers le haut, vers etc., etc., mais qui nous détourne de notre autocentrisme habituel et matérialisme habituel. Et c'est un premier pas extrêmement important, et la théologie du Concile Vatican II à propos de notre relation avec les autres religions souligne les différences qu'il y a en effet selon les religions concernées et les points de contact qu'il y a, plus ou moins nombreux selon les religions concernées. Voilà. Donc ce n'est pas dire tout se vaut et l'essentiel c'est de croire en quelque chose et tout est pareil. Non, pour les chrétiens, c'est le Christ qui sauve et seulement le Christ qui sauve, mais il y a des parcelles de cette vérité du Christ qui sont contenues dans d'autres croyances, dans d'autres religions, et il nous appartient de les repérer et à partir de ces points de contact, de ces repérages-là, établir une relation qui doit être d'abord une relation de compagnonnage fraternel et qui peut ensuite aller plus loin si des personnes posent des questions pour identifier davantage qui est le Christ.
Allez, il nous reste quelques minutes, Monseigneur Mika, pour parler d'un tout autre sujet. Je ne suis pas certaine que vous ayez eu le temps ces derniers jours d'aller au cinéma, mais en tous les cas, depuis plusieurs jours, le film Sacré-Cœur remplit les salles de cinéma avec le réalisateur Steven James Gunnell, qui fait pas mal de buzz, on pourrait dire, avec une promotion très engagée, notamment sur les réseaux sociaux. Et ce réalisateur dénonce certains médias qui refusent de lui donner la parole ou bien des salles de cinéma qui refusent de projeter ce film parce qu'il parle du Christ, c'est un documentaire fiction. Cela crée une espèce de mobilisation assez forte chez les catholiques. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que c'est vraiment là que les chrétiens, les catholiques sont attendus ? Est-ce que ça, c'est être missionnaire ? Et comment on mène ce genre d'annonce sans tomber dans les pièges du prosélytisme ou du récupération politique ?
C'est pas parce qu'il y a des pièges qu'il faut pas aller de l'avant. C'est pas parce qu'il peut y avoir des récupérations qu'il ne faut rien faire, mais il faut en être conscient et se refuser d'entrer dans des polémiques sur ces terrains-là. Je n'ai pas vu le film en effet, mais j'ai eu des échos très très positifs de cette réalisation, qui est un documentaire et une fiction en même temps. Donc c'est un terrain comme un autre, un terrain médiatique comme un autre. Il me semble que la réponse à votre question, elle est du côté de l'usage qui est fait des médias pour témoigner du Christ et de notre attachement au Christ et de sa bonne nouvelle. Et donc, tous les médias sont bons, il n'y en a pas qui sont bons et d'autres qui sont mauvais. Tous les moyens sont bons. Après, il faut toujours discerner dans quel esprit on fait ceci ou on fait cela et de quelle manière on s'adresse à ceux qui ne partagent pas nos convictions. Et il n'y a toujours qu'une seule façon de le faire, c'est celle que le Christ nous enseigne. Et donc, je n'ai pas d'avis particulier. Si le film est bon et beau, bien, il faut aller le voir. Et puis s'il fait du bien aux gens, ben, il faut le constater. Et voilà. Et s'abstenir de toute polémique politique ou je ne sais quoi, où on est persécuté parce qu'on nous empêche de... Il faut vraiment se départir de cette sémantique-là, de ce genre de sentiments et de pensées. Il faut témoigner du Christ à ceux qui nous demandent raison de l'espérance qui est en nous, comme nous y invite l'apôtre Pierre. Et puis, il y a une seule façon de le faire, c'est celle qui fait envie aux autres de connaître ce Christ qui fait que nous sommes qui nous sommes. Et donc, voilà, ben, il faut discerner au milieu de beaucoup de choses la meilleure route. Donc, il n'y a pas un soi de bonnes choses ou de mauvaises choses. Tout peut être détourné de son objectif, mais encore une fois, comme je le disais, c'est pas parce que cela est possible qu'il faut s'abstenir de tout.
Voilà, tout est bon pour annoncer la bonne nouvelle si on reste attaché au Christ. C'est bien ça.
C'est toujours la même chose.
Merci beaucoup, Mgr Jean-Marc Mika. À la semaine prochaine pour un nouvel entretien.
Avec plaisir et très très bonne semaine à nos auditeurs.